Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelle solution face aux inondations sur le thème du Grand Dialogue de ce soir? L'hivernage commence à s'installer petit à petit et déjà les inondations hantent les populations à Bamako et dans certaines localités du pays. Selon la Direction nationale du développement social, plus de 40 700 personnes sinistrées ont été enregistrées en 2023 contre plus de 228 000 en 2022. La météo, de son côté, alerte sur des risques d'inondations et une fin de saison tardive. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces cas d'inondation? Comment les autorités anticipent-elles pour éviter ces catastrophes? Quels sont les services, que font les services de l'assainissement et les mairies? Le Mali a-t-il une politique de gestion des inondations? Est-elle efficace? On en parle dans ce Grand Dialogue avec nos invités. Ibrahim Abdrahman Kunta, ingénieur en planification urbaine, vice-président de l'Ordre des urbanistes du Mali. Amadou Diakité, chef service observation et prévision météorologique. Docteur Oumar Traoré, vice-président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali et Rue de Comin. Nous avons sollicité la participation de la mairie du district de Bamako, mais notre sollicitation est restée sans suite. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, vous qui nous suivez sur 85 radio et 3 télévisions. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Amadou Diakité, chef service observation et prévision météorologique, nous commençons avec vous. Comment s'annonce déjà la saison pluvieuse au Mali?
Okay. Merci pour l'invitation. Cette année, d'après les résultats du forum de prévision saisonnière, nous devons nous attendre à une année normale à tendance excédentaire. Et il faut s'attendre à de risques d'inondation parce que la saison sera longue, elle va continuer jusqu'au mois d'octobre et par endroits même dans le pays jusqu'au mois de novembre, début novembre, sur une partie du pays. Donc ça, ce sont les prévisions saisonnières de cette année.
Quand vous dites une année excédentaire, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Une année excédentaire, c'est une année où la pluviométrie est supérieure à la normale. La normale est calculée sur une base de 30 ans de données pluviométriques. Donc on prend les données sur 30 ans et on fait la moyenne, donc nous considérons ça comme la normale. Et si nous voyons que les prévisions donnent des cumuls supérieurs à cette normale, nous disons que nous avons une tendance excédentaire, normale à excédentaire, parce que comme le Mali est vaste, même si l'année est a une tendance à normale à excédentaire, ce n'est pas exclu qu'il y ait des postes de sécheresse dans certaines parties du pays, parce que le Mali est très vaste. Mais la majorité du pays, ce que la tendance montre, c'est que c'est normal la tendance excédentaire.
Depuis quelques jours, le pays reçoit par endroit quelques pluies. Peut-on parler déjà de l'effectif, de démarrage effectif de la saison des pluies au Mali?
Oui, effectivement. Nous pouvons même dire qu'il y avait eu un premier démarrage de la saison des pluies, mais il y avait eu une pause pluviométrique. Et cela s'explique par le fait que nous quittons une tendance que l'on appelle El Niño. El Niño, c'est n'est que le réchauffement de la surface de la mer sur le Pacifique. Le Pacifique étant l'océan le plus vaste sur la Terre. Donc, quand il y a un réchauffement sur le Pacifique, ça a un impact sur tout le globe, notamment au Sahel. Donc, les études avaient montré que quand on était dans les tendances El Niño, le Sahel ressentait ça difficilement pendant la saison des pluies. Les saisons des pluies pouvaient être normales, souvent quelquefois déficitaires et exceptionnellement excédentaires, comme l'année dernière. Mais les études ont montré que quand c'est la tendance El Niño, c'est ce qui a commencé il y a de cela juste quelques semaines. Donc on a beaucoup plus de pluies au Sahel. Donc c'est ce que les études ont montré et ça qui nous fait espérer que ça promet. Même s'il y a eu un démarrage difficile par endroit, mais quand même, le maire reste à venir.
Vous avez dit qu'il pourrait y avoir des cas d'inondation. Est-ce partout sur l'ensemble du territoire national ou c'est seulement dans les régions du sud du pays qui reçoivent plus de pluie?
Non, actuellement, avec les effets néfastes du changement climatique, aucune région du Mali n'est à l'abri des inondations. parce que les inondations font partie des phénomènes extrêmes engendrés par le rejet massif des gaz à effet de serre, donc ce qui modifie le climat. Donc les études ont montré que plus nous émettons des gaz à effet de serre, plus il y aura plus de chaleur et plus les phénomènes extrêmes vont être d'une intensité sans précédent. Nous avons vécu cette année avec la canicule qui s'est passée ici à Bamako, et ce n'est pas qu'au Mali. Et tout le Sahel et même tout le globe, même en Arabie Saoudite, vous avez peut-être entendu qu'il y a eu des décès là-bas il n'y a pas longtemps. Même chose en Asie, c'est partout. Donc l'atmosphère ne connaît pas de frontières. Et tant que les humains ne vont pas changer de comportement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, nous courons vers la catastrophe.
Quelle partie du territoire pourrait avoir plus de pluie que l'autre?
Pour le moment, les prévisions montrent que les tendances seront supérieures à la normale dans la majeure partie du pays, aussi bien au sud, même au nord. Mais il y a une partie du pays où la tendance reste normale. Mais les prévisions saisonnières aussi sont actualisées chaque mois et la météo donne aussi ces informations graduellement. Chaque fois qu'il y a une actualisation, nous communiquons là-dessus.
Ibrahim Abdrahman Kunta, vous êtes ingénieur en planification urbaine, vice-président de l'Ordre des urbanistes du Mali. Inondation au Mali, quelle analyse faites-vous de l'évolution de la situation dans le pays?
Bon, l'évolution de la situation dans le pays, c'est difficile d'en parler dans le domaine de l'urbanisme parce que ce que nous constatons quand même, c'est que franchement, il y a beaucoup de problèmes par rapport à cela. Parce que les inondations qui sont constatées dans nos différentes agglomérations urbaines ou dans nos villes précisément sont dues à beaucoup de choses. D'abord, il y a le non-respect, en tout cas, de la réglementation et des normes en matière même d'occupation spatiale en République du Mali. Donc, il y a aussi l'insuffisance vraiment d'infrastructures d'écoulement des eaux pluviales. Et donc, il y a vraiment ces problèmes-là et qui font que nous constatons vraiment des inondations aujourd'hui dans beaucoup de nos villes, surtout en saison pluvieuse. Donc, précisément à Bamako, il y a des problèmes de dimensionnement des infrastructures d'écoulement des eaux pluviales qui existent dans beaucoup de quartiers de Bamako. Il y a aussi l'occupation illégale des cours d'eau naturels. Normalement, Bamako ne devait pas souffrir d'inondations, compte tenu de sa topographie, compte tenu de l'existence de beaucoup de cours d'eau qui existent dans notre capitale. Ces cours d'eau-là devaient servir, en tout cas, pour l'écoulement naturel des eaux pluviales vers le fleuve.
Mais qu'est-ce qui explique la multitude des cas d'inondations à Bamako?
Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est parce que là où l'eau devait passer, on a construit là-bas. On a obstrué les passages de l'eau. Donc si on fait cela, forcément, il y aura stagnation quelque part. Et quand il y a stagnation, ça crée inondation. Donc les cours d'eau que vous voyez à Bamako, que ce soit les Bankoni, les Woyoyanko et les Sogoninko et autres, les servitudes, les marges qui devaient être observées de part et d'autre de ces cours d'eau-là, il y a beaucoup quand même qui sont occupés par des habitations et, ou par autres constructions. Donc ce qui fait que ça rétrécit un peu l'emprise de passage d'eau, donc ça provoque forcément des inondations.
Mais le service de l'urbanisme n'a pas sa part de responsabilité par rapport à cette situation d'occupation illégale des lits de cours d'eau?
Bon, on peut dire que le service de l'urbanisme a sa part de responsabilité, mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que les services de l'urbanisme sont vraiment très, très, très faibles sur ce plan-là, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, que ce soit des moyens juridiques, pour pouvoir empêcher ou démolir des maisons, en tout cas, ou des occupations sur ces emprises. Et ils sont quand même démunis aussi sur le plan ressources humaines et autres matériels pour pouvoir sillonner l'étendue du territoire de notre capitale et empêcher les gens à faire ces occupations illicites. S'ils passent, il y a des gens qui construisent la nuit. On a vu ça à Bamako, des constructions illégales qui se font la nuit. Donc c'est très difficile pour les services de l'urbanisme en réalité, au jour d'aujourd'hui, avec les moyens qui sont mis à leur disposition, de faire face à toutes les occupations illégales sur le territoire du district de Bamako. Mais c'est valable aussi pour les autres capitales régionales et les autres villes du Mali.
D'accord. Ouais. Le consommateur est avec nous. La météo annonce des risques d'inondation cette année. Cette annonce est-elle inquiétante pour vous?
Ok, merci Sidio Tamani pour l'invitation. Et sur un sujet de grande importance pour nous, consommateurs, nous sommes tous consommateurs en fait comme partie prenante de la problématique. Et si on annonce déjà la probabilité d'inondation à Bamako et dans certaines villes, dans certaines localités du pays, et je crois que c'est une information qui peut servir d'aide à la décision pour non seulement les différentes autorités, mais également pour les populations aussi, et pour se préparer et faire en sorte que le risque soit amoindri, que le risque soit évité. Parce qu'un risque, ce n'est pas encore une réalité. Il existe en tant que probabilité, en tant que potentialité. Donc si nous avons cette information déjà, ça peut nous servir énormément pour nous préparer. Mais parler déjà des solutions contre les inondations, c'est aussi poser le problème des causes. Les causes ont été énumérées par-ci, par-là. Et M. Kounta vient de parler dans son domaine sur le plan urbanistique, ce qui est tout à fait juste. Mais
il parle des occupations illicites, voilà, donc, de cours d'eau. Voilà. Cela revient en tout cas aux consommateurs qui occupent certains cours d'eau.
Tout à fait. Mais je voudrais aussi dire pourquoi on peut autoriser cela. Parce que souvent, on voit des habitations sans viabilisation. Ça pose un problème qui peut amener justement à cette situation de catastrophe. Alors, donc, ça, c'est une des causes. Mais il y a aussi la responsabilité des populations qui, souvent, obstruent les caniveaux, les voies de passage des eaux fluviales.
Nous allons parler des responsabilités des uns et des autres. D'ailleurs, déjà, les prévisions météorologiques sont-elles suivies et prises au sérieux par les populations et par les autorités?
Ah oui, donc ça c'est vraiment très important parce que la météo est là pour ça. Elle joue son rôle, sa
oui,
mission.
La météo annonce. Peut-être oui. on va revenir vers lui. Oui. La météo annonce qu'il y a annonce des prévisions. Est-ce que ces prévisions-là sont suivies par les populations?
C'est bien suivi. Je vais vous donner l'exemple à travers mon cas. Je crois que c'est M. Diakité, je me rappelle, c'est il y a 2 jours seulement, il était sur une chaîne de télévision pour dire la même chose en parlant de El Niño. J'ai appris ça pour la première fois à travers lui. Il nous a expliqué vraiment, comme il vient de le faire, comment les choses se passent, généralement en termes de pluviométrie. Et cette année spécialement, c'est à quoi il faut s'attendre. Il a tout précisé et il a répété ça aujourd'hui. Et donc, je le reconnais en tant que le même qui est passé dire la même chose. Donc, c'est pour dire que nous suivons. La météo aujourd'hui, en période de canicule, même en période de saison des pluies, nous suivons. Parce qu'aujourd'hui, notre mode de vie est lié à certaines choses qui sont du domaine de l'environnement, du domaine de l'atmosphère, de la situation générale météorologique. Donc, nos activités dépendent souvent de ça. Et je crois que tous les consommateurs sont quand même intéressés par ces informations-là. Donc, peut-être à des degrés plus ou moins importants, on peut s'intéresser à ça. Et même la ménagère qui doit aller au marché doit s'informer souvent. Même la vendeuse aussi. Tout ça, c'est important à savoir par ces différentes personnes parce que c'est lié à nos activités quotidiennes aussi.
Mmh. Avez-vous des échos que vos prévisions sont prises au sérieux par les populations?
Oui, souvent on a des retours parce que nous organisons aussi des rencontres, des ateliers avec les usagers et on a souvent leurs retours. Et la plupart même des choses qu'ils disent, Il disait que souvent on utilise des termes trop techniques, que souvent il faut mettre l'information à la disposition de l'usager, mais
Avec un français facile.
Oui, avec un français facile, pour que ça soit beaucoup moins technique. Donc ça, ça faisait partie de leurs recommandations. Ils ont aussi appris que ces derniers temps, quand les gens suivent la météo, quand la météo annonce la pluie, la plupart du temps, eux, ils pensaient qu'il fallait que la pluie arrive dans sa cour pour se rendre compte qu'il pleut, alors que ce n'est pas comme ça. Quand il y a des prévisions, la ville est vaste, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de la pluie chez toi qu'il n'a pas eu la pluie. Donc, ils ont appris toutes ces informations. Donc, ils ont compris.
Il y avait un moment donné, la météo avait annoncé qu'il y aura des pluies à Bamako. Et beaucoup se posaient la question, on a dit, entre mercredi et jeudi, qu'il y aura de fortes pluies, des risques d'inondation. Et les gens ont attendu 2 semaines avant d'avoir la pluie. Mais qu'est-ce qui explique cela, ce décalage d'annonce qu'il y aura des pluies à Bamako et qu'il faut attendre 2 semaines pour qu'on ait la pluie?
Ça, c'est une bonne question. Souvent, il y a le temps de réponse de l'atmosphère. L'atmosphère peut donner certaines informations, mais le temps que tous les éléments se combinent et que ça arrive à maturité, il peut y avoir un décalage. Mais la dernière fois, quand la météo avait annoncé qu'il y avait des risques d'inondation parce qu'il y a de fortes quantités de pluie étaient prévues, c'est arrivé, mais pas à Bamako, mais à Kita. Donc, eux, ils ont reçu plus de 100 mm, mais on a vérifié, ils n'ont pas eu d'inondation. Donc, les prévisions étaient justes, mais ce n'était pas au bon endroit. Au lieu que ce soit à Bamako, c'est Kita qui a reçu la forte quantité de pluie.
Cela est dit à quoi?
Bon, cela s'explique par le fait que les conditions étaient beaucoup plus favorables vers Kita et Kenyeba qu'à Bamako, parce qu'il y a beaucoup plus de zones boisées là-bas qu'à Bamako, où on commence à couper tous les arbres qui sont dans la ville. Donc tout ceci joue aussi sur la quantité de la pluie.
D'accord. Kunta, les mesures préventives sont-elles appliquées au Mali?
Oui, les mesures préventives sont vraiment appliquées, mais pas suffisamment en tout cas, parce que le docteur a signalé un cas, par exemple, que j'avais dit aussi, parce que j'avais parlé d'insuffisance d'infrastructures d'évacuation des eaux pluviales. Parce que si vous regardez au Mali, nos anciens quartiers, il y a très peu d'anciens quartiers, en tout cas, qui sont dotés d'infrastructures ou de réseaux d'évacuation des eaux. Et les quartiers aussi, les anciens quartiers qui en ont, ces réseaux d'évacuation des eaux pluviales sont utilisés aujourd'hui comme des réseaux d'évacuation des eaux usées. Donc, les toilettes sont branchées sur les caniveaux dans nos anciens quartiers, les Nyarela, Bozola, Lafiabougou, Amdalaï et autres. Les peu de caniveaux qui existent là-bas sont utilisés comme des réseaux d'évacuation des eaux usées. Et quand il pleut, même les gens sortent avec des ordures pour aller verser dans...
En disant que c'est la promotion.
Voilà, c'est la promotion. Donc il y a ces comportements-là quand même que la population doit cesser. Mais il faut quand même franchement renforcer encore davantage la sensibilisation autour de cela. Donc ça, c'est
un premier... Est-ce qu'il y a des cas de sensibilisation par rapport à cet état de fait?
Il y en a eu dans le temps, mais ce n'est pas des choses qui continuent. Donc normalement, ça doit continuer. Et là, ça, c'est un premier élément. Mais chose que je voulais insister sur quelque chose.
Allez-y.
Parce que quand on crée des quartiers, on installe des populations. Normalement, on doit d'abord viabiliser avant l'installation des populations. Mais très souvent, on les installe quand même. Et j'ai parlé des anciens quartiers. Ces anciens quartiers-là sont abandonnés aujourd'hui. Il n'y a pas de projet pour pouvoir rehausser le niveau de viabilisation de ces anciens quartiers. On ne crée pas de nouveaux caniveaux, en tout cas dans beaucoup de ces quartiers-là. Les réseaux de voiries tertiaires, c'est-à-dire les rues qui nous mènent dans nos concessions, ne sont pas aménagées. Et il faut vraiment qu'il y ait des initiatives qui vont vraiment dans le sens de l'amélioration du niveau de viabilisation de nos anciens quartiers. Les nouveaux, maintenant, il faut appliquer les textes réglementaires. Et les textes disent qu'avant l'installation des populations, il faut viabiliser. Et donc, quand on viabilise, il y a des études qui doivent être faites avant la viabilisation. Et parmi ces études-là, il y a aussi les études pour dimensionner les sections des caniveaux, les types de caniveaux qu'il faut. On vient d'écouter les informations. Il y a une dame qui réclame les caniveaux, qu'on abandonne les caniveaux à ciel ouvert afin qu'on puisse avoir des réseaux d'égouts qui vont vraiment permettre d'évacuer les eaux pluviales, mais tout en étant en sécurité, surtout par rapport aux enfants. Donc, ça vient d'être dit. Souvent, on se pose la question à quand nous allons vraiment passer au réseau d'égouts, avoir des stations d'épuration et abandonner nos caniveaux à ciel ouvert et même les fosses septiques que nous réalisons dans nos différentes concessions. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une politique de l'État qui va dans ce sens et que les marchés de l'État, même dans le cadre de la réalisation des nouveaux quartiers, des logements sociaux et tout ça, vont aussi dans ce sens-là.
D'accord. Maintenant, comme on l'a dit, la population est indexée. Est-ce que les informations sur les inondations sont remontées à temps au niveau communautaire? Traoré.
Oui, bon, moi je pense que les populations sont au courant de la situation. En tant que partie prenante, les populations, alors, agissent souvent aussi en fonction de certains facteurs qui peuvent justifier les mauvaises pratiques, entre guillemets. Et lorsque les infrastructures dont parlait M. Kouta tout à l'heure se trouvent vétustes et non adaptées, mal utilisées ou utilisées à d'autres fins, et on a une situation de dégradation de ces réseaux qui existent aujourd'hui dans certains quartiers, ou dans certains quartiers aussi ça n'existe même pas. Donc là où ça existe, alors c'est utilisé à d'autres fins, il y a une dégradation, et il y a tout simplement une déviation des rôles de ces infrastructures-là, dû au fait que les populations les utilisent mal ou les utilisent à d'autres fins. Ce qui fait qu'on peut aussi se pencher du côté des autorités. Des autorités qui ont aussi la gestion donc des terroirs. Les territoires sont aujourd'hui confiés aux maires, aux élus, dans le cadre de la décentralisation. Donc, il faut que, de ce côté aussi, on essaie de voir comment faire en sorte que ces ouvrages ou ces infrastructures peuvent être préservées, peuvent être améliorées pour qu'elles puissent servir aux objectifs pour lesquels elles existent. Donc, il y a d'un côté la responsabilité de ces élus, il y a aussi la responsabilité des populations qui ont besoin d'être sensibilisées, qui ont besoin d'informations sur les enjeux. Parce que c'est de cela qu'il s'agit.
Mais qui doit informer, qui doit sensibiliser ces populations-là?
C'est un rôle qui nous revient à nous tous. Parce que si nous regardons même la politique nationale d'assainissement...
En tant que responsable des consommateurs, oui, est-ce que vous faites vous jouez ce rôle-là?
Je vais en venir. Je dis ça nous revient à nous tous. Parce que dans la politique nationale d'assainissement, ça fait partie aussi des objectifs. Donc, ce sont les structures d'État, les structures publiques qui existent pour ça. Et il y a aussi la société civile, il y a les organismes privés, etc. En ce qui nous concerne, nous ne cesserons jamais de faire ce travail de sensibilisation par rapport à tout ce qui peut concerner les problématiques donc posées au niveau des populations. Pour rappel, en 2020, il n'y a pas longtemps, nous avons eu à mener un petit projet intitulé Action de développement social urbain pour la protection, pour l'assainissement et la protection de l'environnement. Un projet qui est de deux mois seulement, avec un petit montant de moins de 2 millions, 1 million 700 et quelques, que nous avons eu par nos partenaires. Nous avons alors invité les populations donc, au curage des caniveaux. Et il s'agissait de mettre à la disposition des familles du matériel, brouettes, pelles et autres matériels pour que chacun puisse sortir pour faire nettoyer devant sa maison. Donc, faire le curage des caniveaux. C'était en 2020 tout près. Et ça, c'était l'action qui a été menée sur le terrain. Mais il y a eu aussi des sensibilisations dans les médias. par rapport à la question de l'assainissement. Donc, je crois que ça va dans notre mission, notre devise au Redecoma, c'est un environnement, un corps sain dans un environnement sain.
Ça reste une devise.
C'est notre devise. Partout où vous voyez le Redecoma, c'est écrit. Hein? Donc, sur notre temple. Et c'est aussi un des droits du consommateur. Le droit à un environnement sain. Et reconnu sur le plan mondial par l'Organisation des Nations Unies.
D'accord.
Donc, voilà, c'est pour dire que vraiment, nous sommes partie prenante, nous sommes concernés et nous jouons notre partition. Et l'objectif, justement, de notre projet, c'était de mobiliser les populations autour de la problématique de l'assainissement et l'amélioration du cadre de vie. Donc, il s'agissait de les sensibiliser sur les enjeux de l'assainissement. D'accord. Donc, nous avons mené ça en 2020.
D'accord. De 2020 à maintenant, c'est stop.
Non, c'est pas stoppé, puisque nous avons d'autres projets. Il y a trop de choses à faire à la fois.
Mais est-ce que ça a donné
des
résultats?
Ça a donné des résultats. Ça a donné des résultats et nous continuons à voir les gens. À Bagadadi, par exemple, nous avons invité la jeunesse à s'impliquer dans ça. Et je vous assure, après le projet, je les ai vus en train de faire la même chose.
D'accord.
Oui.
On parle de sensibilisation sur les dangers des inondations concernant les populations. Est-ce que l'approche est appropriée? Est-ce que c'est l'approche qu'il faut pour sensibiliser? Est-ce que l'approche est adoptée vraiment au contexte?
Avant de répondre à cette question, moi je voulais revenir sur le problème que nous, au niveau de la météo, nous constatons avec les ouvrages. Nous avons remarqué que quand les ingénieurs font les ouvrages, souvent ils ne consultent pas la météo. Donc, ce qui fait que ces ouvrages ont du mal à résister face au temps parce qu'ils ne font pas d'études. Alors que la météo dispose de données depuis 1800. Nous avons des données depuis 1800 jusqu'à présent chez nous. Donc, ces données pourront être utiles lors des études techniques dans la conception de ces ouvrages. Monsieur Kunta en a parlé que ces ouvrages sont mal entretenus. Même lors de la conception, ils n'ont pas tenu compte du temps et du changement climatique, alors que les choses sont en train de changer. Et s'ils ne tiennent pas compte de ça, dès que les premières pluies vont arriver, les ouvrages ne vont plus servir à grand-chose et les inondations vont toujours revenir. Même si c'était pour répondre à certaines problématiques, ça ne va pas solutionner la problématique en question. Maintenant, en matière de sensibilisation, c'était ça la question. Moi, je conseillerais aux gens de changer de mode de comportement. Et le docteur en a parlé. L'incivisme pendant la saison des pluies, en jetant des ordures n'importe comment, ça, c'est pas bon. Donc, nous recommandons à la population d'éviter ce genre de choses parce que ça ne fait qu'augmenter le risque d'inondation. Et les ouvrages seront incapables de jouer leur rôle si ces ouvrages sont obstrués par des ordures. Nous recommandons aussi aux gens de suivre les informations météo et aussi de penser à faire des campagnes de reboisement. Il doit même avoir au Mali une politique nationale de reboisement. Ça s'est passé dans certains pays d'Afrique de l'Est où les gens ont planté jusqu'à 50 millions d'arbres en quelques jours. Donc si nous allons vers ça, parce que la désertification continue au Mali et nous allons faire face à beaucoup de phénomènes extrêmes. Il y a les inondations, mais il n'y aura pas que les inondations. Donc, c'est cet aspect que moi, je voulais soulever pour que les populations pensent à trouver des solutions et à ne pas toujours attendre que ce soit l'État qui vienne faire tout à la place des populations. Nous devons tous nous impliquer. On a tous une responsabilité dans le changement climatique.
Quand vous dites que les ingénieurs ne consultent pas la météo lors des études d'ouvrage, est-ce à dire que les populations sont victimes ou elles sont actrices de cet état de fait?
Bon, on peut dire que les populations sont victimes parce que c'est eux qui subissent les conséquences. Donc on peut dire qu'ils sont victimes. Mais quand même, les spécialistes sont censés savoir que pour construire souvent de tels ouvrages, on a besoin de faire des études sur le vent, sur la température, sur le cumul pluviométrique de la zone avant de faire certains nombres d'ouvrages. Donc, on a même on avait même remarqué à Bamako, souvent, il y avait eu des effondrements d'immeubles pendant la saison des pluies, parce que ces gens-là ne font pas d'études. Ils cherchent seulement les chantiers et puis ils construisent, malheureusement. Et les premières victimes, c'est les populations.
D'accord. Et Ibrahim, vous êtes ingénieur en planification. On dit que les ingénieurs ne consultent pas la météo lors des études d'ouvrage. Est-ce le cas?
Bon, je ne peux pas confirmer ça, en tout cas pour tous les cas. Peut-être, probablement, ça passe pour certains, mais même dans les études de planification, nous avons toujours des informations météorologiques que nous mettons dans les schémas directeurs d'urbanisme. Donc la pluviométrie des 10 dernières années, très souvent on met ça dans les documents de planification. Donc on consulte, on essaye quand même d'avoir des informations météorologiques pour pouvoir concevoir certaines choses. Mais par rapport au dimensionnement des réseaux, il y a beaucoup d'aspects en réalité qui peuvent rentrer dans le jeu, qui peuvent fausser les calculs des ingénieurs. Comme je l'ai dit, on peut venir, par exemple, dans un nouveau quartier comme les ATT Boukou qui poussent dans la périphérie des villes aujourd'hui. Donc l'ingénieur vient, il voit un vide derrière lui. Donc, et ce vide-là, peut-être qu'il y a une forêt, il y a des arbres, c'est la brousse donc, qui absorbe de l'eau. Lui, il fait son dimensionnement. Mais après, on vient, on réalise d'autres lotissements, d'autres constructions sur ces vides-là et on oriente les eaux maintenant vers les ouvrages que lui, il a dimensionnés. Alors que ces ouvrages n'étaient pas dimensionnés pour la réception de toutes ces quantités d'eau auparavant. Donc, ça peut fausser les calculs. Donc, il y a plusieurs autres éléments qui peuvent rentrer dans le jeu par rapport à cela. Mais je sais quand même que tout bon ingénieur, c'est difficile de faire des dimensionnements sans pour autant avoir une idée sur les quantités ou les informations météorologiques de la zone. Donc, comme je l'ai dit aussi, souvent, c'est difficile de se limiter seulement. On donne des titres fonciers aux gens avec des plans de lotissement dans les limites du titre foncier. Se limiter au périmètre de ton étude pour faire le calcul de dimensionnement des infrastructures d'évacuation des eaux, souvent, ça pose problème. Je peux dire que ça fait partie, en tout cas, des causes des inondations que nous constatons aujourd'hui à l'ACI 2000. Donc, les choses sont, les infrastructures ont été dimensionnées, mais à mon avis, quand même, on n'a pas tenu compte du bassin versant qui descend de Amdalaï vers ACI 2000. Donc, ce qui fait que les eaux qui descendent de Amdalaï vers ACI 2000 débordent les infrastructures et ça crée des inondations dans beaucoup d'endroits. L'hôtel Radisson est victime de ça chaque année. Donc, on en voit, même il y a deux jours, les pluies qui sont tombées, il y avait des problèmes au niveau de l'hôtel Radisson. Le palais des sports, c'est pareil. À ces endroits-là, il y a toujours des inondations à ces endroits. Donc, c'est difficile. En tout cas, tout bon ingénieur, quand même, doit se renseigner et s'informer auprès des météos avant de procéder, en tout cas, à la conception de ces infrastructures.
Vous avez parlé des responsabilités partagées. Vous avez parlé de cas de populations, le comportement que les populations adoptent face à ces cas d'inondation. Est-ce à dire que les personnels et les membres de comités de veille sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes sont suffisamment formés?
Bon, au fait, comme le docteur Traoré vient de le dire, au fait, les responsabilités d'information, de sensibilisation, ça incombe pratiquement à tout le monde. Parce que il y a des services qui sont là, qui informent, qui sensibilisent. Mais il faut reconnaître aussi que, franchement, il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilisations. Mais moi, à mon avis, quand même, ils doivent avoir aussi des sanctions. On a assez sensibilisé, on a vraiment assez informé, mais il faut que, parce qu'il y a d'autres langages aussi que les gens comprennent ça.
Répression.
Bon, en tout cas, oui, il faut quand même sanctionner. Les mauvais comportements, là, il faut avoir des moyens pour pouvoir...